commence avec une étude parue dans Science Translational Medicine. Les enfants et les adultes n'ont pas la même réponse immunitaire face au SARS-CoV-2.
Et pourquoi les symptômes du Covid-19 sont moins sévères chez les plus jeunes? Alors certes, il y a les comorbidités, souvent liées à l'âge, mais pas que. Cette équipe américaine a étudié la réponse immunitaire de 60 cas pédiatriques et de 65 cas adultes. Les chercheurs ont découvert que les plus jeunes expriment des niveaux plus élevés de deux molécules spécifiques du système immunitaire, l'interleukine 17A et l'interféron gamma. Alors, l'interleukine aide à mobiliser la réponse du système immunitaire au cours d'une infection, tandis que l'interféron gamma combat la réplication virale. Ce sont deux molécules du système immunitaire inné. L'étude montre que plus les patients sont jeunes, plus leurs niveaux sont élevés. Les adultes, eux, montrent une réponse du système immunitaire adaptatif beaucoup plus vigoureuse, avec de forts taux d'anticorps neutralisants. Selon les auteurs, c'est peut-être parce que les enfants ont une réponse immunitaire innée plus robuste et plus précoce que cela les empêche de progresser vers des symptômes plus graves.
En bref, selon une étude parue dans Nature Physics, des physiciens viennent de découvrir un nouveau type de supraconducteur.
Ouais, les supraconducteurs, ce sont des matériaux qui ne montrent aucune résistance électrique, de façon à ce que l'électricité puisse les traverser avec une efficacité proche de 100%. Mais ils ne fonctionnent qu'à basse, très basse température. Jusqu'à présent, on n'en connaissait que deux types, les supraconducteurs à ondes S et à ondes D. Ils dépendent de la configuration des paires de Cooper, c'est-à-dire de la façon dont les électrons se déplacent ensemble. Depuis plus de 20 ans, l'un des principaux candidats pour un nouveau type de supraconducteur est le ruthénate de strontium. Une équipe américaine a utilisé la spectroscopie ultrasonore et a découvert que le matériau est potentiellement un nouveau type de supraconducteur, un supraconducteur à ondes G. Les chercheurs vont poursuivre plus en détail leur analyse sur le ruthénate de strontium.
On continue avec une étude parue dans PLOS ONE qui a en partie percé le mystère de l'effet placebo.
Mais pourquoi un traitement factice peut aider les gens à se sentir mieux? L'explication biologique de l'effet placebo restait mystérieuse. Une équipe allemande est allée chercher cette réponse dans le sang. Une centaine de participants ont suivi une expérience qui provoque la nausée. Un groupe recevait un traitement antinauséeux, un autre un placebo et le dernier rien. Les chercheurs ont examiné les échantillons de sang avant et après l'expérience. Chez ceux qui ont affirmé ne plus avoir de nausée avec un placebo, ils ont trouvé 74 protéines qui semblent être liées à cet effet. Des protéines qui jouent même un rôle dans le contrôle de l'inflammation. Alors d'une part, ça signifie qu'un test sanguin confirme l'effet d'un placebo sur les symptômes. Et d'autre part, ces résultats révèlent des changements dans la chimie du sang qui pourraient expliquer l'effet lui-même. Selon les auteurs, nous pourrions avoir un impact sur l'inflammation avec un placebo. Cette découverte permettrait aussi de mieux évaluer les médicaments conçus pour cibler l'inflammation.
En bref toujours, selon une étude parue dans Nature Communication, l'évolution de la confiance sociale peut se lire dans la peinture classique.
Une équipe française a entraîné un algorithme de machine learning à reconnaître les expressions faciales du visage. Les expressions de sympathie, au contraire, celles de la méfiance, que l'on peut lire sur les sourires ou sur les sourcils. Ils ont utilisé cet algorithme sur près de 2000 portraits européens de la National Portrait Gallery de Londres, qui ont été peints entre le 14e et le 21e siècle. L'histoire du portrait révèle bien cette évolution historique de la confiance en l'autre. Leur résultat montre une augmentation au fil du temps des expressions faciales de sympathie. Les auteurs expliquent cette évolution par le déclin de la violence sociétale, par l'augmentation du niveau de vie, ainsi que par l'émergence d'institutions plus démocratiques.
Et dans le journal des sciences cette semaine, Natacha, nous avons parlé des mystères chimiques de l'eau surfondue, d'un biomarqueur de la maladie d'Alzheimer présent dans les yeux, du Covid-19 et de la charge virale des personnes asymptomatiques, de l'omniprésence préoccupante des perfluorés dans les aliments, mais aussi dans l'actualité des sciences en ultra bref.
Oui, cette semaine, la Station Spatiale Internationale a dû faire une manœuvre pour éviter un éventuel impact avec des débris spatiaux. Alors, par précaution, le vaisseau a donc changé d'orbite. Avec l'augmentation de la pollution de l'orbite terrestre, ce type d'opération risque de devenir de plus en plus fréquente. La NASA réclame plus de moyens pour surveiller le nombre croissant des débris spatiaux. Cette semaine, dans Nature Astronomie, une étude présente une curiosité stellaire. Le télescope TESS a détecté une étrange exoplanète située à 263 années-lumière de la Terre, LTT 9779b, une Neptune ultra chaude qui orbite très proche d'une étoile similaire au Soleil. Elle fait le tour de son étoile en seulement 19 heures. La température locale est de 1725 degrés. Et enfin, les oiseaux aussi ont leurs dialectes régionaux. Certaines espèces communiquent par le son que produisent leurs battements d'ailes. Des chercheurs se sont intéressés au langage des ailes du moucherolle à queue fourchue, un oiseau migrateur d'Amérique. Ils ont observé deux populations différentes et ils ont découvert que les sons produits par leurs ailes diffèrent d'un groupe à l'autre. Lors de combats ou lors de parades amoureuses, les deux groupes ont chacun leur signature sonore, en d'autres mots, du patois de passereau.
Et on termine, comme chaque vendredi, par la rubrique d'improbablologie. Aujourd'hui, Natacha, vous nous soignez, puisque des chercheurs se demandent pourquoi les chiens sont coprophages.
Alors, vous le savez peut-être, certains chiens adorent les excréments, et en particulier les excréments humains. Un anthropozoologiste californien pense que les matières fécales humaines ont peut-être influencé l'évolution canine. Nos déjections ont probablement joué un rôle dans la domestication du chien. Contrairement aux loups, qui, eux, ne consomment pas de crotte humaine, les hommes et les femmes du paléolithique fournissaient aux chiens une source de nourriture abondante. La coprophagie canine serait donc une adaptation évolutive, une stratégie d'auto-domestication. Par ailleurs, d'autres études ont déjà montré que pour les chiens, les excréments humains sont étonnamment nutritifs.
Bon appétit à tous et merci beaucoup, Natacha. On se retrouve lundi.